EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Bonjour à toutes. Et oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés ici, mais je voulais prendre un petit moment avec vous pour parler des déceptions. Vous savez, on en a parlé dans cette semaine, comment se rebondir après une déception et puis voir ensemble c'est quoi en fait une déception et quels sont les différents types de déceptions et comment pouvoir garder son cœur. Et puis après, on va aller rejoindre les filles et oui, elles seront là pour terminer la semaine. Et je vous encourage aussi, si vous nous suivez en podcast, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager, n'hésitez pas à partager ce podcast À table avec Annabelle. Ça s'écoute quand même assez bien en faisant le ménage, en faisant manger, dans la voiture, dans les transports en commun. Et pour nous, c'est un plaisir de vous accompagner dans votre quotidien. Alors j'en reviens à notre thème des déceptions. Il y a plusieurs types de déceptions qui existent. Et la première déception dont je voulais vous parler, c'était la déception qui est due à des décisions qui sont hors de notre contrôle. Et vous savez, je voulais vous lire aussi ce proverbe, Proverbe 13 au verset 12, un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Et ça, c'est, je crois, quelque chose qui décrit extrêmement bien la déception. Un espoir différé qui rend le cœur malade. Quelque chose qui devait arriver, selon moi, mais qui n'arrive pas, et ça amène quelque chose de triste en moi, ça touche mon âme, une lourdeur, un chagrin, et c'est vraiment ça la déception. Donc la Bible nous en parle, mais ce n'est pas une fatalité, nous ne voulons pas rester dans la déception. Donc la première déception, il y en a peut-être d'autres, mais la première déception, c'est celle qui vient des décisions qui sont hors de mon contrôle. On a entendu l'histoire de Rachel qui a vu son jour de mariage être complètement bouleversé parce que le Covid est arrivé, le confinement est arrivé, tout a fermé, et c'était hors de son contrôle. Donc elle ne pouvait absolument rien faire contre ça. Elle ne pouvait pas organiser un mariage de façon illégale. Et du coup, c'est comme tu subis des choses qui viennent de l'extérieur et ça amène une forme de déception. Puis on peut le vivre avec des écoles, avec un refus d'une école. T'as fait tout ce qu'il fallait, mais pourtant, t'as été refusé. Avec un travail pour lequel t'as postulé, tu trouvais que t'avais le bon CV, la bonne expérience, mais tu sais pas pourquoi, toi, tu n'as pas été choisi. Avec des démarches administratives, des démarches juridiques ou des démarches aussi d'immigration, tu ne sais pas pourquoi, mais ton dossier n'a pas été accepté, ton dossier n'a pas été abouti, on ne t'a pas donné gain de cause et c'était totalement hors de ton contrôle. Et de savoir que c'était hors de mon contrôle, je crois que c'est déjà une clé pour pouvoir mieux vivre cette déception. C'est de se dire, si moi j'ai fait tout ce qu'il fallait, c'est quelque chose que je ne pouvais pas décider. La deuxième déception, ça va être les déceptions qu'on provoque nous-mêmes. Alors je m'explique. Il y a des déceptions qui arrivent à cause de nos mauvais choix, à cause de notre manque de préparation, à cause de nos mauvaises façons de penser, à cause d'erreurs qu'on a pu causer, de mauvaises motivations. Et du coup, on se retrouve à vivre des déceptions. Alors tout à l'heure, je parlais par exemple d'une école. Tu as une déception parce que tu n'as pas été pris dans une école. Et ça peut être totalement de ton contrôle. Mais dans certains cas, c'est toi-même qui a provoqué malheureusement cette déception parce que tu n'as pas fourni le travail qu'il fallait. Tu n'as pas fourni les résultats qu'il fallait. Tu vis un échec scolaire parce que tu n'as pas assez travaillé. Et moi, je me souviens, quand j'étais à l'université, je venais de rencontrer le Seigneur et puis j'étais dans une espèce d'euphorie que Dieu s'occupait de moi, que j'avais pas besoin de travailler pour avoir mes examens. Et du coup, j'ai complètement échoué mon année. Et j'avais l'impression que, vu que je croyais en Jésus, que j'allais réussir même si je n'avais pas travaillé. Et du coup, j'ai été hyper triste. J'ai vraiment été déçue. Quand j'ai su que j'avais pas passé mon année, j'ai pleuré. Je me suis dit, oh, mais je suis trop triste, j'ai pas eu mon année. Mais pour de vrai, si on regarde comment ça s'est passé, comment je n'ai pas eu mon année, sincèrement, c'est parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Oui, j'avais Jésus dans mon cœur, j'avais la vie éternelle, mais j'ai manqué réellement de sagesse et probablement aussi de motivation et de discipline. Mais du coup, je me suis retrouvée dans une situation où j'ai vécu une déception alors que j'en étais moi-même la première responsable. Il y avait personne d'autre de responsable si ce n'est moi. Et peut-être que toi aussi, tu te retrouves dans ce genre de déception et je t'encourage à avoir cette humilité de te dire bah, c'est peut-être moi en fait qui me suis retrouvée dans cette situation. Ça peut aussi arriver dans des relations. On peut avoir des attentes qui sont trop élevées. On peut avoir des attentes trop élevées, soit dans la manière dont la personne va nous considérer, mais aussi dans ce que les gens peuvent nous donner. Je prends l'exemple, tu passes par des moments difficiles au niveau financier et puis tu te dis « Ah ben moi, ma tante, elle a beaucoup d'argent. Ben je crois qu'elle va m'aider puisqu'elle a beaucoup d'argent. C'est forcément, elle va me donner de l'argent, elle va m'offrir une voiture ou en tout cas, elle va m'aider à acheter une voiture. Tu lui fais cette demande, « Tata, est-ce que tu peux me donner de l'argent parce que j'ai besoin d'argent pour m'acheter une voiture ?» Et tata ne donne pas d'argent. Et là, tu vis une forte déception. Mais encore une fois, eh bien c'est oui quand même une déception que tu as provoquée toi-même parce que tu as des attentes vis-à-vis d'une personne, des attentes vis-à-vis de ses biens, vis-à-vis de quelque chose qui lui appartient à elle et tu t'étais attendu à ce que ça revienne vers toi et du coup bah tu te retrouves être déçu et puis être pris au dépourvu. Ça peut être aussi parce que des attentes qu'on provoque soi-même, ça peut être parce que on a une mauvaise perspective, une mauvaise vision des choses. Alors on en parle régulièrement. Vous savez, nous sommes au Québec et au Québec, bon, de moins en moins, mais quand même, on a un hiver avec de la neige et avec du froid. Et si au mois de janvier, quand je me réveille, j'ouvre ma fenêtre et que je m'attends à vivre l'été, eh bien tu risques de vivre une déception pendant tout l'hiver parce que tu n'as pas une bonne perspective ni la bonne compréhension de la saison dans laquelle tu es. Et là, je t'encourage à appliquer, à trouver dans quelle saison tu es, en dehors de l'été, printemps, hiver, mais dans la saison de ta vie. Et parce que tu vas vivre sinon des déceptions si tu ne comprends pas là où tu en es. Et une troisième sorte de déception est qui n'est pas les moindres, ça va être les déceptions spirituelles. On prie et puis la personne décède. Une personne qui nous était très chère à notre cœur. Il y a eu des jeûnes, il y a eu des prières, il y a eu des chaînes de prières. Beaucoup de gens ont prié. Il y a même eu des paroles qui ont été données. Un enfant qui a pu mourir ou qui passe par une maladie très grave. Et une trahison aussi des gens qui nous font du mal. Peut-être un mari qui vous a quitté alors que vous étiez un couple dans le Seigneur et qu'apparemment tout allait bien. Et boum, du jour au lendemain, tout s'est écroulé. Et là, c'est une déception qui est oui, émotionnel, mais qui est aussi spirituel parce que ça vient ébranler notre confiance en Dieu. On ne comprend pas à ce moment-là ce qui se passe. On se dit, mais Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? Est-ce que ce en quoi j'ai cru, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a encore une fondation? Et je dirais que les deux premières déceptions, ce sont des déceptions qui peuvent amener des frustrations qui peuvent amener de l'impatience, mais cette dernière déception peut amener comme une distance qu'on va mettre envers Dieu, voire même quelquefois une colère, une incompréhension, un rejet de Dieu. Et j'aimerais vous lire, si c'est votre cas, le verset 1 Pierre 5:8 qui nous rappelle « Soyez sobres et restez vigilants. Pourquoi ? Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont apposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Et j'aimerais vous rappeler qu'il y a un ennemi, il y a un diable qui rôde et qui veut venir manger, qui veut venir détruire et que cet ennemi, il est réel. Il y a des choses quelquefois qui arrivent et on ne sait pas. Et je n'ai pas de réponse aujourd'hui, malheureusement, une réponse claire à vous dire voilà pourquoi exactement ça s'est passé. Mais j'aimerais nous rappeler que nous avons un ennemi commun et c'est le diable. Il cherche qui il va dévorer, mais la Bible nous encourage à garder une foi inébranlable et nous encourage aussi en nous disant tu n'es pas seul à passer par des temps de souffrance, tu n'es pas le seul à avoir vécu ce genre de déception. Et dans 1 Pierre 4 au verset 12, bien aimé, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et c'est la parole de Dieu et je vous la donne en ayant foi dans le Saint-Esprit qu'il puisse faire que cette parole soit vivante et soit déposée dans votre cœur comme une parole de vie, une parole d'encouragement, une parole aussi de consolation qui vient remplacer toutes les interrogations, qui vient remplacer toute l'incompréhension, la confusion et qui vient chasser cette incrédulité qui a commencé à s'installer dans votre cœur. Et pour terminer, j'aimerais vous donner juste quelques clés rapidement pour vous dire comment faire pour que la déception ne devienne pas une frustration, que la déception ne s'installe pas et ne devienne pas quelque chose qui va faire partie intégrante de notre vie, partie intégrante quasiment de notre identité. La première chose, ce serait de lâcher prise. Lâche prise. Il y a eu cette déception, il y a eu cette situation, mais maintenant c'est le temps de lâcher prise parce que sinon tu vas vivre constamment dans le passé, tu vas vivre constamment dans cette situation. La deuxième chose, ça va être bien sûr de persévérer. Persévère. Si tu as reçu une parole de Dieu, si tu étais en train de faire le bien, si tu étais en train d'accomplir, d'obéir à ce que Dieu t'avait dit, eh bien persévère. Si Dieu t'avait dit oui, tu vas rentrer dans cette école, oui, je te donne ce pays comme héritage, eh bien continue de faire tes démarches, continue de faire tout ce que tu peux pour pouvoir le vivre, parce que Dieu, lui, n'a pas abandonné. L'autre chose, c'est de continuer de s'améliorer, continuer de travailler, particulièrement pour les choses, pour les déceptions qu'on a vécues, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. Eh bien, apprenons. Et puis, apprenons en faisant mieux la prochaine fois, en retirant des leçons, et puis en grandissant en maturité. L'autre chose, c'est de rester dans la foi. Comme la veuve avec ce juge, elle est allée le voir et ce juge dit « Je crains pas Dieu, mais pourtant je vais donner à cette femme ce qu'elle me demande parce que elle me rompt la tête. » Alors faites confiance à Dieu. Oui, non seulement c'est une image pour nous dire que de prier sans cesse et sans relâche jusqu'à ce qu'on puisse voir la promesse s'accomplir, mais c'est aussi un encouragement pour nous dire que même le pire des hommes, le pire des obstacles que vous pouvez vous dire « Non, mais avec cette personne, ce sera pas possible. J'y arriverai jamais. Je pourrai jamais accéder à cette promesse. » Non, Dieu est capable d'incliner le cœur de cet homme juste à cause de votre persévérance, à cause de votre fidélité. Et on ne met pas notre foi dans les hommes, mais on met notre foi en Dieu. Et Dieu est capable, oui, de faire incliner le plus dur d'entre eux, comme il l'a fait avec ce juge. L'autre point, c'est de pouvoir pardonner. Parce que lors des déceptions, eh bien souvent, ça va aussi inclure d'autres personnes. Eh bien, pardonner, ça va faire partie du fait de pouvoir relâcher entièrement la situation. C'est de pardonner la personne qui vous a déçu, la personne qui était peut-être à l'origine de cette déception. Et de pardonner aussi, si vous avez besoin, de pardonner Dieu. On sait qu'il n'a pas péché, mais si on lui en veut pour quelque chose qu'il n'a même pas fait, mais si on lui en veut dans notre cœur, eh bien, prenez le temps de pardonner au Seigneur lui-même. Et l'autre chose, c'est très important, c'est de continuer de fonder votre vie sur la parole. Parce que le danger, c'est qu'après avoir vécu une déception, on aurait tendance à faire de ces déceptions comme une doctrine, parce que on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé, parce que on n'arrive pas à surpasser cette expérience. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Il y a des choses, notre compréhension est limitée aujourd'hui, mais il y a une décision qui ne nous décevra jamais. C'est de se dire, j'ai peut-être pas vécu ce que me dit la parole aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi, mais ta parole reste la vérité. Ta parole reste mon roc, ta parole reste ma fondation et je vais continuer de croire dans ta bonté, Seigneur. Je vais continuer de croire dans ta fidélité. Alors, pour terminer, n'aie pas peur d'être déçu, n'aie pas peur de croire et n'aie pas peur de la déception parce que ça va arriver dans la vie, mais ça vaut la peine de croire. Nous sommes des croyants, ça veut dire que nous sommes faits pour croire, c'est notre nature, c'est notre essence propre de croire en Dieu, de croire dans sa parole, de croire dans ses promesses. Alors ne laisse pas la peur d'être déçu venir vaincre cette foi que tu as naturellement en toi qui veut s'exprimer pour croire des choses extraordinaires. extraordinaire. Et avant de pouvoir rejoindre les filles, eh bien, j'aimerais aussi rapidement vous lire un beau témoignage qu'on a pu recevoir suite à notre campagne de don. Vous savez, nous sommes dans cette super campagne des 20 000 partenaires mensuels. Et alors, un instant, oui, cette femme nous écrit, cette nouvelle partenaire, elle nous dit « Je n'ai pas résisté à montrer à ma classe le compte animé du paralytique, il voulait en voir d'autres. » Et elle-même qui est enseignante adulte, elle dit « Je suis encore plus impatiente de pouvoir utiliser ma Bible junior. » Et c'est vrai que on a tous hâte de voir cette application Ma Bible sortir, et je crois qu'elle ne vous décevra pas non plus. Et je voulais vous rappeler que EMCI vit à 95% des dons. À 95%, je ne sais pas si vous imaginez l'ampleur des dépenses qu'il peut y avoir, l'ampleur de tout ce qui est engagé, de toutes les finances qui est engagée. Et pourtant, Dieu ne nous a jamais déçus. Et comment Dieu ne nous a jamais déçus ? Il ne nous a jamais déçus en passant par votre fidélité à vous. 95%, vous imaginez, de tout ce que fait EMCI, c'est grâce à vos dons. Alors, je voulais vraiment vous remercier parce que vous avez été fidèles. Vous êtes encore fidèles, vous croyez encore avec nous. Et rien que ça, c'est un énorme miracle pour EMCI, mais pour toute la francophonie. Alors si vous aussi, vous voulez faire partie de ces 20 000 partenaires, vous pouvez aller sur emcitv.com/20000 et rejoindre les 20 000 partenaires mensuels qui donnent 35 euros par mois. Et de mon côté, eh bien, je vais tout de suite aller rejoindre les filles pour clôturer ensemble cette semaine dans À Table avec Annabelle. Je suis de retour avec les filles autour de la table. Je vous ai rejoint les filles, merci de m'avoir attendu. Et vous allez répondre à des questions de façon, je pense, pratico-pratique pour terminer un petit peu cette thématique sur la déception. Parce que il y a toutes sortes de déceptions. Et Stéphanie, tu vas commencer, tu es la grande...
L'heureuse élue.
Bon, je partage les coulisses. C'est qu'il y en a une qui ne voulait pas commencer. C'est laquelle ?
On ne sait pas. Personne.
Donc, Stéphanie, déception par rapport aux enfants. Comment rebondir face à un enfant qui fait des mauvais choix ? Et je dirais que face à ça, ça arrive tout le temps dans la vie de n'importe quelle maman des enfants.
Oui, je pense que dans la vie de maman, les enfants vont faire des choix qu'on n'est peut-être pas en accord, ou ces choix qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Et des fois, ça crée des déceptions parce que, tu sais, on l'a dit dans l'émission, les déceptions, c'est quand les choses ne se passent pas comme toi, tu les avais imaginées. Donc, tu avais prévu des choses pour tes enfants, tu avais prié, tu avais espéré des choses, et là, ils prennent une direction qui est différente. C'est sûr, ça a plusieurs ampleurs. Quand ils sont petits, c'est différent que quand ils sont grands. Mais mettons, quand ils sont grands, adolescents, adultes, ça peut faire des choix qui nous emmènent de la douleur, des peines. Et la première façon, c'est d'éviter la comparaison. Parce qu'on est toujours porté, pourquoi mes enfants font ci? Je les ai élevés, j'ai prié, et là tu compares les autres familles, puis là, tu dis, pourquoi chez nous c'est comme ça? Donc ça, c'est une perte de temps qui nous aide pas à nous élever au-dessus de la déception. Ouais. Évite la comparaison. Deuxièmement, évite l'évitement. Parce que il y a des choses des fois qu'on ne veut pas vraiment voir, tu vois. Et je crois que je sais pas comment vous réagissez par rapport à des problèmes, des situations difficiles, mais des fois on peut être dans le déni, on peut ne pas vouloir confronter parce qu'on n'a pas de solution, on peut juste vouloir râler, tu sais. Et j'ai une grande révélation, un problème non résolu est un problème non résolu. Exact. Donc quand on est face à des situations, il y a des par rapport à nos enfants, il y a des problèmes que nous devons confronté. Et tu vois, et des fois, il faut aller chercher de l'aide si on prend des mauvais choix. Il faut garder la communication ouverte et n'ayons pas peur d'aller chercher de l'aide, des spécialistes, ainsi de suite, et de faire face aux problèmes. Et il y a des choses, faire face aux problèmes, résoudre un problème par rapport à des mauvais choix de nos enfants, ça ne veut pas dire accepter ce qui est inacceptable. Tu vois, de se garder des limites, de garder nos propres valeurs si nos enfants n'ont pas respecté les valeurs de Dieu. Mais la chose la plus importante, c'est de garder le canal de communication parce que là, on peut avoir une information influence encore sur eux. Et ça, c'est le plus important. Donc, pas comparer, ne pas éviter la situation, y faire face. Éviter aussi, j'ai dit éviter l'évitement, éviter les pourquoi. Ouais. Perte de temps inutile. Ouais. Si on a fait quoi que ce soit, on peut se remettre en question. Mais des fois, faut jamais oublier que les enfants font des choix qui leur appartiennent.
Exact.
On a beau avoir semé des choses, mais quand ils sont dans l'âge adulte ou l'âge de prendre des décisions, c'est leur propre choix. Mm-hmm. Bien sûr, si on a manqué, des fois, ça peut être des mauvaises décisions qu'ils ont prises parce qu'il y a eu quelque chose dans la famille, qu'on n'a pas été parfait. Mais savez-vous, il n'y a pas de famille parfaite, il n'y a pas de mère parfaite, puis il n'y a pas de... Alors, c'est de dire, si on a manqué, je te demande pardon, mais après ça, les pourquoi, ça appartient... Il y a des réponses que ça ne nous appartient pas. On perd du temps. Pourquoi ci, pourquoi ça? Et le plus important, c'est espère contre toute espérance. Moi, c'est un verset qui m'a tenue. Espère contre toute espérance. C'est dans, tu sais, dans Romains chapitre 4, quand Paul, il va parler en parlant d'Abraham, puis il va dire, il a espéré, même si c'est une saison qui était difficile, il a cru qu'il pouvait ramener à la vie ce qui est mort. Et je veux le dire haut et fort à une femme, ce que tu as semé, tes prières ne sont pas en vain.
Amen.
Il est le Dieu de l'impossible et tu dois constamment, pour te relever de la déception, c'est constamment espérer que Dieu va ramener ton enfant, il va le ramener dans le droit chemin. Et continue de prier. Et j'aime toujours cette illustration avec la pêche miraculeuse. Tu vois, quand je m'en viens, là, vous dire ah, ça en va, pêche miraculeuse, mais on peut se voir comme mère, que, tu sais, Pierre, lui, il a pêché toute la nuit, ça n'a pas fonctionné, c'était pas ça, il n'y avait plus de ressources, c'était compliqué, sa situation. Et quand Jésus va lui dire hein, retourne encore pêcher, mais là, il pourrait, dans ses pensées, dire « Moi, je sais comment ça marche. Mm-hmm. Je sais comme si ça n'a pas fonctionné. » Et c'est ça, la déception, des fois, quand nos enfants se sont éloignés, c'est que des fois, ils reviennent un peu, puis là, t'es tout content, puis finalement, ça s'écroule encore. Mm-hmm. Donc, t'es déçu, et là, t'oses plus espérer parce que en fait, t'as tellement peur d'être déçu que t'espères plus. Mm-hmm. À quelque part, tu protèges ton cœur. Mais Pierre n'a pas écouté ses pensées négatives. Et il a dit « Sur ta parole, Jésus, je relancerai mon filet. » Et Jésus, il a dit, va en eau profonde. Et pour relever de ces déceptions-là, comme femme, c'est d'aller en eau profonde. Et l'eau profonde, c'est dans la présence de Dieu. Mmh. Pierre savait qu'en eau profonde, c'était la ressource. Donc, en allant dans l'eau profonde, il est allé chercher la ressource. Et il a dit, sur ta parole, je vais lancer le filet. Et je prie pour relever de la déception, pour croire au miracle de Dieu pour nos maisons, c'est d'aller se chercher une parole de Jésus que Dieu ramène à l'existence,
Amen.
Ce qui est mort, et de jette ton filet encore une fois, jusqu'à temps que tu vois le miraculeux. Et je vous rappelle la fin de l'histoire, les poissons sont revenus, et ce fut une pêche miraculeuse. Mais il a dû espérer contre toute espérance, jeter le filet à nouveau. Donc, il y a toujours de l'espoir, et ce qu'on a semé dans la vie de nos enfants, Dieu va le faire fructifier.
Amen.
Merci.
Ça wow. Donc, un petit 4 minutes.
Et je dirais aussi de pas faire la différence entre la déception qu'un comportement peut ou une décision peut apporter et que c'est pas l'enfant en soi qui est une déception. Mm-hmm. Parce qu'il y a des enfants, ils le prennent pour eux, puis ça devient comme une identité. Je suis une déception dans la vie de mon père ou de ma mère. Mais merci beaucoup, Stéphanie. Quelle prédication!
C'est difficile parce que c'est des situations complexes. Donc, une demi-réponse, c'est pas suffisant. Et c'est une situation que ça dépend, la déception. C'est pas pareil quand t'es un
peu. Et on avait besoin d'une capsule d'espoir.
Voilà. Alors, jette ton filet à nouveau dans l'eau profonde.
Ouais, c'est dur de passer après toi, hein.
Mais vu que ce n'est pas une compétition.
Oui, je sais.
Laure, on va parler avec toi de la déception amoureuse parce que ça, c'est vraiment des grosses déceptions aussi.
Absolument. Est-ce que c'est correct si je prends mes notes, moi?
Vas-y. Absolument, alors.
Mais oui, déception amoureuse, hein, c'est des choses qui peuvent arriver, hein, on le sait. Et écoute, moi, la première chose que je dirais pour pouvoir rebondir après une déception amoureuse, c'est un peu pratique, mais ça serait avant tout de couper les ponts. Couper les ponts avec la personne avec qui on était en relation, parce que c'est vrai que parfois, on aime garder un lien, rester en relation avec l'autre personne, peut-être parce que voilà, c'est dur de complètement arrêter. On va aussi avoir peut-être un petit œil sur ce que fait encore l'autre. Mais le problème, c'est que dans ce genre de situation, ben on peut pas avancer en fait. On est toujours accroché à l'autre, donc on peut pas aller de l'avant et ben le processus finalement de guérison ne peut pas vraiment commencer parce que on est toujours rattaché à l'autre. Donc c'est vraiment important de vraiment couper tous les ponts et de se dire que ben ce qui va se passer aussi quand tu restes attaché à l'autre, c'est que le danger, c'est l'ambiguïté peut revenir. C'est vrai, un petit message, un petit quelque chose et hop, c'est reparti. Mais logiquement, quand il y a une relation est terminée, c'est qu'il y a une décision qui a été prise, donc faut être à 100% intègre dans la décision et donc couper les ponts. Donc ça serait la première chose que je pourrais dire. La deuxième, c'est forcément pour nous aider à rebondir, c'est s'accrocher à Dieu. S'accrocher à Dieu parce que évidemment c'est pas un temps facile. Je pense que des fois on peut vivre une rupture amoureuse comme un deuil. On voit plus la personne, c'est terminé. On avait l'habitude d'être tout le temps avec quelqu'un, puis comme ça du jour au lendemain, ben t'es plus avec cette personne là. Et je pense que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est s'approcher de Dieu. Et parce que des fois, on pourrait avoir tendance, dans cette souffrance-là, de se dire, tu broies du noir, t'es un peu dans ta tête, t'as pas trop envie peut-être de te tourner vers Dieu. Mais c'est dommage parce qu'on se prive énormément, en fait. On se prive de sa présence. Et dans 2 Corinthiens 1:3, ça dit que Dieu nous réconforte dans toute situation. Et Dieu veut vraiment être un soutien pour nous. Mais pour ça, faut s'approcher de lui, en fait. Faut s'accrocher de lui. Et on a son réconfort à disposition, son amour, sa compassion. Donc c'est important vraiment de rentrer dans sa présence et ça va aussi nous aider à renouveler notre intelligence en fait, de pouvoir avoir une intelligence renouvelée, de pouvoir aussi avancer notre processus de guérison et de façon saine, parce que des fois on peut guérir mais tu guéris peut-être par tes propres moyens, mais quand c'est avec le Seigneur ça va vraiment aller en profondeur, peut-être qu'il va y avoir un travail de pardon qui va être fait et tout. Donc on a tout à gagner en fait à avancer avec le Seigneur et je sais que j'ai déjà entendu aussi des gens qui se sentent portés avec une grâce particulière parce qu'ils avancent avec Dieu, et là où ça pourrait être compliqué, ça pourrait être difficile, ils se sentent comme c'est fou, je sens vraiment une grâce là, je sens que c'est plus facile que ce que ça devrait. Donc voilà, vraiment, on a tout à gagner à s'accrocher à Dieu. Ensuite, moi, mon encouragement, ça serait aussi de ne pas s'isoler. Voilà, parce que c'est vrai que des fois, après une déception, on aurait tendance à vouloir s'isoler, à vouloir rester seul et peut-être à broyer du noir. Mais ça, c'est vraiment un danger parce que c'est là où l'ennemi aussi va vouloir venir attaquer. Tu vas être dans une phase où, si tu te retrouves tout seul, où des pensées vont venir. Est-ce que j'ai bien fait d'arrêter avec cette personne? Est-ce que je vais finir par un jour me marier, rencontrer quelqu'un? Donc l'isolement n'est pas la bonne chose. Et peut-être aussi qu'on a honte, donc on n'ose pas aussi aller vers les gens parce qu'on se dit mais c'est un échec en fait, je viens de vivre un échec, qu'est-ce que les gens vont penser? Donc déjà par rapport à ça, de se dire que les gens regarderont jamais cette situation là comme une situation d'échec, au contraire ils vont être pleins de compassion, tu vois, ils vont être là pour nous et voilà, donc vraiment encourager à ne pas s'isoler parce que c'est un risque et c'est un danger et c'est là où l'ennemi peut aussi opérer et aussi oser demander de la prière parce que je pense que dans ces temps-là, on en a absolument besoin d'être soutenu par les uns les autres. Puis c'est aussi biblique que vraiment on puisse prier les uns pour les autres, qu'on puisse s'encourager les uns les autres. Donc voilà, ne pas hésiter à demander de la prière, à nos proches. Spontanément, ils le feront peut-être pas, mais voilà, nous osons demander. Ça peut que nous faire du bien et on peut se sentir porté. Ensuite, je dirais un autre petit point que je pense important aussi pour rebondir. C'est vrai que je pense que des fois dans ces temps-là, lorsqu'on a été en relation, peut-être qu'on s'est oublié en fait. On a tellement été focalisé dans notre relation, sur la personne en face, ou peut-être même à la fin sur les conflits, sur ce qui s'est passé, on s'est peut-être oublié de l'équation. Et peut-être que dans ce temps où tu reviens vers Dieu, ça peut être aussi un temps où tu demandes à Dieu, Seigneur, peut-être que je me suis oublié dans ce que tu as déposé en moi, dans peut-être les dons que tu m'as donnés, dans les projets. Peut-être que ça faisait longtemps que tu avais à cœur de partir en voyage missionnaire, mais tu l'as jamais fait parce que tu étais prise dans cette relation ou parce que pour X raisons. Donc peut-être que c'est un temps aussi qui peut aider à aller de l'avant, revoir ce que Dieu a déposé dans ton cœur pour pouvoir bien avancer. Et ensuite, je dirais aussi que ce qui va vraiment être important sur le coup, c'est de penser plus loin en fait que la douleur et la déception. Et ça, c'est vraiment un gros travail dans les pensées, parce que c'est vrai que sur le coup, c'est normal. Tu es triste, tu vis une blessure, peut-être de l'incompréhension, et peut-être que même qu'à ce moment-là, la personne te manque, c'est possible. Des fois, la personne peut te manquer pendant peut-être un petit moment, mais faut penser plus loin en fait. Faut se dire que à un moment donné, le cœur, il va finir par cicatriser, ça c'est sûr, le temps va faire les choses, et encore plus quand tu marches avec Dieu, parce qu'il peut vraiment avoir une accélération aussi dans tout ça. Et puis, désolé le timing, ça
c'est une masterclass.
On s'inspire un peu, moi aussi, je me sentais.
On défile ça là,
j'aurais plus de temps pour.
Non, désolé, j'ai fini, j'ai quasiment fini. Et voilà, et ne aussi pas voir les échecs, parce que ça, c'est aussi ne pas voir l'échec. Attends, ne pas voir la situation comme un échec. Ne pas voir la situation comme un échec, mais au contraire, voir comme ça, comme une porte qui se ferme et comme Dieu qui nous préserve, en fait. Et ça, c'est important, parce que des fois, c'est comme, c'est bon, voilà, c'est terminé, peut-être que je passe à côté de l'homme de ma vie, tout ça. Mais non, mais Dieu est en train de fermer une porte, en train de te préserver. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Et même si tu le réalises pas maintenant, ben, un jour, la personne va le réaliser, en fait. Surtout quand elle aura rencontré la bonne personne. Et je terminerai en disant de te rappeler que Dieu a en réserve des projets de paix et non de malheur. Donc, c'est là où il faut voir loin, c'est important. Et ça, ça inclut aussi la bonne personne. Donc, je parle de la bonne personne parce qu'on parle de déception amoureuse. Donc, Dieu a vraiment la bonne personne pour toi. Et donc, ben, accroche-toi à cette promesse, accroche-toi à Dieu et de dire que le meilleur est devant. Yes!
Bravo là!
Tu disais de fermer la, que Dieu, si Dieu a fermé une porte, mais c'est aussi d'accepter que la porte est fermée et de nous-mêmes fermer la porte et de pas tout le temps la réouvrir en coupant les ponts, mais quelquefois aussi en coupant
les réseaux, les téléphones, en brûlant les amis.
Non, mais passer à autre chose et
même de pas si ruminer, nécessaire la personne
pas, et de pas ruminer l'histoire parce que la déception sinon reste vivante. Aurélie, on termine avec toi avec une déception. C'est pas toi la déception, avec une déception qui n'est pas des moindres. Ça va être la déception au niveau des études ou au niveau du travail.
Oui, comment rebondir après une déception scolaire ou professionnel ou licenciement. Bon, moi, on m'a jamais licencié. Mais écoute, j'ai échoué le bac. Je sais pas si vous saviez ça, j'ai échoué le bac la première fois.
Ah oui, je me souviens. T'en parles pas trop.
J'ai dû, mais c'était à l'école, j'avais jamais échoué. C'était mon premier échec scolaire. Et je vais vous dire, donc, vous allez comprendre pourquoi j'ai donné ces conseils du coup, mais ça s'applique aussi sur le plan professionnel. Déjà, les échecs vont partir de la vie. Je pense qu'il faut se le dire, hein, ça fait partie de la vie, mais ça ne définit pas la valeur d'une personne. Mmh. Et c'est comment on réagit face à l'échec, c'est ça qui va faire la différence. C'est normal que ce soit difficile dans le cœur lorsqu'on vit un échec, mais vraiment, c'est comment on choisit de réagir lorsqu'on a vécu cet échec, quel qu'il soit. C'est ça qui va faire la différence. Donc, quelques conseils pour aider par rapport à l'échec scolaire ou au niveau professionnel. Prenez du recul et acceptez vos émotions. Il faut accuser le coup. Mm-hmm. Moi, je me rappelle justement quand j'ai échoué le bac, j'y croyais pas. Tu vois, moi, je pensais que non, c'était faux, on s'est trompé, etc.
Ah ouais, carrément.
Une erreur. C'est ce que je pensais, mais il faut accuser le coup. Il faut reconnaître que, OK, il y a vraiment une situation d'échec qui a eu lieu. Il ne faut pas chercher des excuses à ce moment-là. Parce que oui, ça s'est passé, peut-être au travail, il y a eu un licenciement. Ne cherche pas d'excuses, c'est vrai. Ça s'est fait. Non, mais ça aide parce que tu vas pas tomber en mode accusation de ils ont mal fait, les patrons ne se sont pas bien comportés. Tu vas aussi te faire grâce à toi-même parce que t'as accepté cette situation là et ça va t'aider en fait aussi à ne pas réprimer trop tes émotions et à juste, si ça te prend de pleurer, ben pleure. Il faut que tu passes par cette étape là qui est nécessaire en fonction de tes émotions. Donc il faut accuser le coup. La deuxième chose, c'est d'analyser la situation. Il faut comprendre les raisons de cet échec ou de ce licenciement. Moi, j'ai compris plus ou moins un an plus tard, quand j'ai refait l'épreuve de physique de l'année que j'ai ratée.
Je pense que j'aurais eu...
Effectivement. Donc, une fois que je l'ai refait, j'ai lu. Et ça prend souvent ça. Ça prend une petite analyse. Et cette analyse, parfois, tu peux le demander même à Dieu. Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui n'a pas fonctionné par rapport à mes études, par rapport à ce travail, qu'est-ce que je n'ai pas vu. Vous voyez, dans la Bible, on voit Moïse revenir. Chaque fois, il va vers le Pharaon. En fait, pour lui, il y a un échec quelque part parce que il pensait que Pharaon allait laisser partir le peuple à la première plaie. Mais en fait, non. Et bien, chaque fois, il revient vers Dieu et il dit, mais tu m'as dit telle chose, ça n'a pas fonctionné. Donc, il y a comme une analyse qui se fait, en fait, quelque part entre lui et Dieu. Et je crois que c'est important de prendre le temps d'analyser les choses. Et quand on analyse les choses, ben, il y aura des questions qui vont émerger. Est-ce que c'est vraiment mon domaine d'activité? Est-ce que j'ai vraiment étudié? Est-ce qu'il y a des choses que je dois changer? Ouais. Est-ce que c'est moi qui suis derrière ce licenciement? Il y a des bonnes questions qui vont sortir de là et ça va nous aider pour la suite. Donc, une troisième chose, c'est apprenez de l'expérience. Parce que, en effet, chaque échec va offrir une opportunité d'apprentissage. Si, sincèrement, tu passes à, il y a un échec, une déception, et que tu n'apprends rien de ça, il y a un souci quelque part. Il y a un souci.
Où le souci?
Tu vois, comme j'ai dit, on voit quand même que Moïse a grandi dans cette expérience-là, parce que, en plus, pour lui, ça s'est répété. Il a eu quand même 10 plaies. Et on voit quand même que la confiance de Moïse a grandi. Là, il rentrait chez Pharaon, c'était différent. Dans sa posture, même la façon de parler a changé. Et sincèrement, c'est parce qu'il a appris des expériences passées. Il a appris du fait que Pharaon avait un cœur dur. Parfois, il vient le voir et dit « Je sais que tu ne le feras pas » parce qu'il a appris de ce qui s'est passé avant. Mmh. Et c'est important d'apprendre aussi de tout ce qu'on a vécu. Une autre chose pour ce cas d'échec-là, c'est de se fixer des nouveaux objectifs. Là, par exemple, si c'est un échec scolaire, ben, peut-être qu'il va falloir repasser cet examen-là. Il faut se fixer des nouveaux objectifs. Si c'est au niveau professionnel, ben, il va certainement falloir retrouver un nouveau boulot. Et pour ça, ben, ça prend...
Sauf si la leçon que tu retiens, c'est « je ne suis pas fait pour travailler ».
Non, c'est pas une bonne leçon à retenir, ça. Parce que la Bible nous encourage à être diligent.
Merci, hein, Aurélie.
Donc, il faut se fixer de nouveaux objectifs, trouver un nouveau travail avec des bonnes dispositions de cœur, tu vois, ne pas rester sur l'échec qu'on a eu, mais vraiment se fixer de nouveaux objectifs. Aussi, comme Laure disait tout à l'heure, j'encourage à changer les idées, à se changer les idées. Tu sais, on broie vite du noir lorsqu'il y a un échec, mais la Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Donc, c'est en fait se mettre dans une posture où tu vas peut-être un peu oublier tout ça et juste être dans la joie. Ça va aussi t'aider à penser tes blessures par rapport à cet échec-là. Et dans le même ordre d'idée, prenez soin de vous. Parce que quand on a tendance aussi à se laisser aller, à devenir un peu fla-fla, comme ça, quand on a un échec. Donc, c'est bien de prendre soin de soi. Ça va donner un peu plus d'assurance. Ça va donner le côté joyeux. Et ça, ça peut aider. Et mon dernier conseil, c'est soyez persévérant. Il faut compter sur Dieu avec foi pour les prochaines fois.
Amen.
Peut-être cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné, mais le fait de renouveler notre foi en Dieu, ben, nous permet de savoir que, OK, même s'il y a, ça n'a pas été la même foi, je l'active. Et avec Dieu, il y a toujours meilleur devant nous. Amen. Donc, ça va le faire. Grâce à Dieu.
Eh bien, merci beaucoup. Merci, les filles. Donc, on a vu qu'on peut se relever des déceptions. C'est pas une fatalité. Puis, c'est pas non plus la fin d'une histoire. Et puis, on va forcément avoir affaire à des déceptions parce que nos plans ne s'accomplissent pas. Parce que les gens ne font pas tout ce qu'on veut non plus. Et forcément, bah, c'est des choses qui arrivent maintenant. C'est de pouvoir garder son cœur, de continuer de faire confiance à Dieu. Et puis, je vous encourage à réécouter peut-être cette dernière partie parce que, comme Aurélie l'a dit, c'était un speed preaching, surtout la partie de l'homme. Donc reprenez ses points au calme.
Au ralenti.
Ah oui, c'était des très bons points et c'est vrai que c'est des grandes questions, ceci dit. Donc j'avoue que l'exercice n'est pas facile d'y répondre en quelques minutes, de se relever d'une déception amoureuse ou d'un enfant qui fait des mauvais choix ou encore d'un échec scolaire ou professionnel. C'est des choses quand même lourdes dans le cœur. Mais le but, c'était aussi de vous donner quelques pistes et puis surtout de vous redonner de l'espoir pour vous dire, voilà, vous êtes arrêté en cours de route parce que la déception a été trop grande, mais là, c'est le temps de vous relever, c'est le temps de faire à nouveau confiance à Dieu et il ne vous décevra pas. Alors aujourd'hui, relève ta tête et comme Aurélie l'a dit, ne sois pas fla-fla. Va te laver les cheveux, va t'habiller, maquille-toi, parfume-toi et go, on y va. On va faire confiance à Dieu et je crois que tu auras un témoignage que la déception ne sera pas la fin de ton histoire. Et merci beaucoup les filles pour cette belle semaine. Et puis à bientôt. Bye bye.
Bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.